Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 20 novembre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc la question que je te pose à toutes les fois, on était parti la semaine dernière en congrès pour les conseillers, donc on n'a pas fait de balado, mais on a eu une conférence de Raphaël Jacob qu'on a partagée avec nos clients. Donc est-ce que tu peux nous mettre à jour un peu sur qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est parti?
Donc, depuis les deux dernières semaines, en fait, on va remonter. En fait, au début du mois de novembre, on sait, les élections américaines. On avait beaucoup de craintes sur le résultat des élections américaines puis l'impact sur les marchés. Force est d'admettre que l'impact est quand même assez positif d'un point de vue financier. Depuis le début du mois, donc on est le 20 novembre, le TSX est en hausse de 3,5%, le S&P 500 en hausse de 3,7%, le Nasdaq en hausse de 4,9%. Pourquoi est-ce que le marché est à la hausse? Ben, en partie, possiblement, en raison des anticipations de la baisse des taux d'imposition des entreprises américaines. Donc, si le gouvernement américain baisse le taux d'imposition, ben, ça fait plus de profit pour les entreprises et ça, ben, c'est bon pour la valeur des actions en bourse. Au niveau des taux d'intérêt, ben, ces baisses d'impôts-là vont stimuler l'économie, donc possiblement retarder les baisses de taux d'intérêt. Alors, on a vu les taux d'intérêt aux États-Unis augmenter légèrement sur les obligations 10 ans de 4,3. On est à 4,4. Ça oscille dans ces eaux-là, donc on verra où ça va aller dans les prochains mois. On continue d'anticiper des baisses de la Réserve fédérale. Par contre, c'est peut-être des baisses un peu moins rapides et un peu moins prononcées, peut-être espacées dans le temps. Du côté du dollar américain, ben on a aux États-Unis des taux qui ont monté un petit peu, au Canada un peu moins. Donc le dollar canadien qui faiblit, il y a la crainte des tarifs, donc pour l'économie canadienne, qui vient aussi avoir un impact sur le dollar. On était, on se souvient, là, il y a quelques mois, on était à 75, 76 presque. On est à 71,50, donc quand même une baisse assez significative. Qu'est-ce qu'on surveille ce soir, donc mercredi le 20? Vous allez écouter le balado demain jeudi, là, mais ce soir, on va avoir les résultats financiers de NVIDIA, donc l'entreprise de micropuces pour l'intelligence artificielle. C'est toujours un titre qui a un impact sur le marché à la hausse et à la baisse. Les attentes sont toujours très élevées pour NVIDIA. Donc, quand on a une action qui anticipe la perfection, ben l'entreprise doit livrer des résultats financiers parfaits. Alors, même si on a d'excellents résultats, ce sera peut-être pas assez, ça va prendre des résultats parfaits. On verra bien quel sera l'impact demain.
Merci beaucoup, Martin. On va se croiser les doigts parce que ça affecte vraiment tout le marché, en réalité.
Ouais.
Lors de nos discussions avec les clients concernant leur portefeuille ou lorsque nous proposons des titres, nous parlons des dividendes ou des distributions payées par le titre de laquelle on discute.
Ouais.
Nous sélectionnons souvent des titres à dividendes dans nos portefeuilles.
Ouais.
Cependant, nous prenons peut-être pour acquis l'importance et le rôle des dividendes et que c'est bien compris de chacun. Donc aujourd'hui, on veut se pencher sur la question. C'est un sujet, je pense, qu'on n'a pas couvert tout seul. On l'a couvert dans d'autres sujets, mais on n'a pas pris vraiment le temps de le décortiquer. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Donc, un de tes dictons favoris, puis je vais le dire en anglais, c'est « I love to clip my coupons ». Et je le dis dans le ton de voix que tu le dis. Est-ce que tu peux nous traduire cela en français et expliquer pourquoi tu le répètes si souvent, un peu à la blague?
Ouais, donc l'expression « le clip my coupon » fait référence au revenu d'intérêt. Donc anciennement, un titre obligataire, il y avait littéralement un coupon d'intérêt attaché après qu'on découpait avec des ciseaux, qu'on amenait à la caisse puis qu'on recevait un paiement. Donc, ce qu'on aime d'un titre à dividende, ben c'est ce paiement-là qu'on reçoit de façon régulière. Je dis souvent, là, ça allonge notre patience, là, quand un titre nous paye en attendant. Donc, même si on est un petit peu dans l'erreur, ça nous permet là, d'être un petit peu plus patient.
Qu'est-ce qu'un dividende? Est-ce que tu peux l'expliquer vraiment?
C'est tellement une question fondamentale. Ouais. Ça vient d'où le dividende? En fait, le dividende, ben, c'est le profit de l'entreprise qui est redistribué à ses actionnaires. Alors, c'est le même dividende que quelqu'un qui a une entreprise privée. Puis on sait, ils ont le choix de se payer un salaire, puis à la fin de l'année, ben, leur entreprise a fait un profit, puis le propriétaire de l'entreprise va se verser un dividende. Pourquoi il se verse un dividende au lieu d'un salaire? parce qu'ils payent moins d'impôts. Donc, c'est la même chose d'un point de vue d'un...
C'est une façon de partager dans le succès de l'entreprise avec
les Exactement. Les Donc, pourquoi est-ce qu'on aime des titres qui versent des dividendes? Bien, c'est un peu le premier filtre. Une entreprise qui verse un dividende, bien, en partant, il faut qu'elle soit rentable. Mm-hmm. Donc, déjà, on parle d'entreprises qui sont peut-être un peu plus matures, un peu plus stables, et puis probablement un peu moins risquées. Donc, vraiment, c'est un filtre assez rapide. C'est vraiment un revenu passif régulier. Hein? Donc, on n'a rien à faire. On sait que nos clients, bon, les clients plus âgés aiment vivre de leurs revenus. Ben, on reçoit un revenu régulier. On n'a pas besoin d'espérer que le prix de l'action monte. On reçoit un paiement à tous les mois ou trimestres, là, selon les entreprises. Généralement, les dividendes, c'est quand même assez stable aussi. Donc, c'est assez prévisible. Là. Les entreprises, bon, un dividende, c'est toujours à la discrétion du conseil d'administration de la compagnie. OK? C'est pas garanti, un dividende. Par contre, le marché n'apprécie pas l'incertitude et le marché n'apprécierait certainement pas une entreprise qui joue avec son dividende à la hausse et à la baisse comme un yo-yo. Ouais. Généralement, les entreprises, les conseils d'administration vont déclarer un dividende et ils s'assurent d'être en mesure de le payer ce trimestre-ci, mais aussi les trimestres subséquents, puis idéalement d'avoir un peu de place pour l'augmenter dans le futur. Il y a l'effet boule de neige. Hein. On sait qu'un dividende, bon, on le reçoit, c'est un paiement en argent. Là. Généralement, là, on reçoit de l'argent cash. Si on n'a pas besoin de cet argent-là, certaines entreprises permettent le régime de réinvestissement automatique du dividende. Donc, ça veut dire quoi? J'ai des actions de TELUS, je reçois mon dividende de 200$ par mois, mettons, en fonction du nombre d'actions que je détiens. Ben, ce dividende-là peut être reconverti en actions puis me donner des actions supplémentaires plutôt que de recevoir un paiement en argent. Ça fait quoi? Ben, ça fait que le mois prochain, ces nouvelles actions-là vont me donner encore un autre dividende de plus et ainsi de suite. Puis on connaît la magie de l'intérêt composé. Ben, au début, ça a l'air insignifiant d'avoir juste 4 actions de plus, mais dans 25 ans d'ici, c'est des centaines d'actions de plus qui vont donner des milliers de dollars de plus par année de revenus. Donc, on adore cet effet boule de neige. Malheureusement, ce ne sont pas tous les titres qui sont éligibles. Puis d'une autre façon, on le fait indirectement aussi. Donc, quand on reçoit même l'argent en cash, donc on peut recevoir de dividendes de 7, 8, 10 entreprises différentes, mais en bout de ligne, on va prendre cet argent-là pour acheter un nouveau titre. Fait que ça revient un peu au même de façon indirecte. Bien souvent aussi, c'est un peu une protection contre l'inflation. Donc, on sait, par exemple, prenons nos banques canadiennes qui ont un très long historique d'augmenter le dividende presque à toutes les années, des fois, deux fois par année, à un taux qui est plus élevé que l'inflation. Donc, j'ai mon paiement en dollars X aujourd'hui, bien, l'année prochaine, mon paiement en dollars va augmenter, peu importe le prix de l'action au marché, en général, là, parce que je répète que c'est à la discrétion du conseil d'administration, donc il n'y a pas de garantie là-dedans, mais historiquement, la majorité des bonnes entreprises augmentent leur paiement par année, et si l'augmentation est plus élevée que l'inflation, ben je suis en train d'enrichir mon pouvoir d'achat à long terme.
Excellent. Et qu'arrive-t-il si à l'action d'une entreprise qui coupe le dividende ou qui l'augmente? Et quel est un piège possible avec les dividendes?
Bon, et le piège, on va commencer par le piège, là, donc le faux attrait d'un gros dividende. Okay? Mm-hmm. Donc, quand on voit une entreprise qui verse un dividende de 10, 12 % c'est pas attrayant, c'est un piège. C'est un piège parce que ça signifie souvent que le marché croit et anticipe que l'entreprise ne génère pas suffisamment de bénéfices pour payer son dividende à long terme. Donc, des fois, ça peut durer un certain temps. Des fois, les bénéfices de l'entreprise peuvent réaugmenter dans le futur. Donc, souvent, l'entreprise va maintenir un dividende, même si les bénéfices sont pas tout à fait au rendez-vous, parce qu'elle s'attend à améliorer sa situation puis être en mesure ensuite de couvrir son dividende. Par contre, quand on arrive dans des dividendes de 10-12 %, bien souvent, c'est parce que le paiement en dollars est fixe, mais le prix de l'action a baissé beaucoup. Donc, le pourcentage est élevé parce que le prix de l'action a baissé. Et si l'entreprise, donc à ta question, qu'est-ce qui arrive quand une entreprise coupe son dividende? Bien, généralement, le prix de l'action tombe encore plus. Donc là, on se fait cogner des deux côtés. Non seulement on a moins de revenus, mais en plus, notre capital a baissé, puis souvent de façon assez significative. Bien, inversement, une entreprise qui augmente régulièrement son dividende à toutes les années ou à fréquence, à intervalles réguliers, Donc, on devrait mettre plus d'emphase, non pas sur la taille du dividende, mais sur la croissance du dividende. Donc, c'est une entreprise qui paye juste 2% de dividende, mais dont le montant en dollars augmente rapidement à un pourcentage élevé, ben dans 10 ans d'ici, il va avoir un plus gros dividende par rapport à notre prix d'achat. Right? Donc, ce qu'on cherche, c'est une croissance du dividende et non pas une taille de dividende.
Bien dit. Et on ne peut pas parler de dividendes si on ne parle pas du traitement fiscal des dividendes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est traité de façon côté impôt?
Oui, ça, c'est assez bien connu que le dividende a un traitement fiscal plus favorable qu'un revenu d'intérêt. C'est quand même assez compliqué, le traitement fiscal.
Oui.
Donc, quand je reçois 100 $ d'intérêt, quelqu'un qui a un taux d'impôt à 40 % par exemple, ben il va payer 40 $ d'impôt, right? Son montant est pleinement imposable. Quand je reçois 100 $ du dividende, comment ça marche sur le rapport d'impôt? Donc, il faut comprendre qu'on a dit le dividende, il vient de où? Il vient des bénéfices de l'entreprise. Donc, l'entreprise, avant de payer le dividende, elle a payé de l'impôt sur son bénéfice, right? Et le gouvernement ne veut pas double taxer ce même bénéfice-là. Donc, comme l'entreprise a déjà payé un impôt, quand moi je reçois mon 100 $ de dividende, je vais m'imposer sur 138 $. Hein? Comment ça? Parce qu'en réalité, l'entreprise a fait 138 $ de profit. Donc, moi, j'ai reçu juste 100 $ de dividende, mais j'augmente le dividende de 38 %. Je calcule mon impôt à payer, donc de 40 %. Alors, ça va me coûter, mettons, 55 $ d'impôt. Par contre, un peu plus loin dans le rapport d'impôt, je vais recevoir ce qu'on connaît comme le crédit d'impôt pour dividende. Donc, le gouvernement va prendre en considération l'impôt que l'entreprise a payé, puis ils vont réduire mon impôt à payer. Donc là, j'avais 55 $ d'impôt à payer sur mon dividende de 100 $. Bien, au fédéral, j'ai un crédit d'impôt de 15 %, donc moins 15 $ d'impôt à payer. Et au Québec, c'est 12 %. Ça fait 11,9. On va faciliter notre calcul en disant 12. Donc, mon 55 d'impôt à payer descend à 28. Ah, gardons ça, je paye juste 28 $ d'impôt sur mon dividende de 100 $ au lieu de payer 40 $ d'impôt sur mon revenu d'intérêt.
Et si vous l'oubliez, ce petit calcul-là, il est vraiment disponible sur l'Internet.
Puis c'est dans les cases. Hein, quand oui. Vous recevez votre T3, T5, là, je les mélange tout le temps. Il est indiqué le montant réel du dividende, 100 $, montant imposable, 138. Crédit. Donc, tu sais, toutes ces cases-là sont rentrées. Donc, si vous ne savez pas pourquoi que le montant ne dit pas pareil, c'est la logique du gouvernement, c'est de dire ben, on ne veut pas double taxer le même revenu, alors on prend en considération l'impôt que l'entreprise a payé. Pour les propriétaires de petites entreprises privées, là, tu sais, la compagnie de peinture qui se verse un dividende en fin d'année, donc les petites entreprises gérées de façon active payent un taux d'impôt plus petit. Alors, la majoration, elle est aussi plus petite, puis le crédit d'impôt est plus petit. Là. Donc, c'est la différence entre un dividende déterminé et un dividende non déterminé. On ne rentrera pas dans les détails, on est rendu dans le complexe. Mais si vous avez déjà entendu ces mots-là, donc l'entreprise déclare un dividende déterminé de X, bien, ça fait référence au taux d'impôt que la compagnie a payé avant de distribuer son dividende, ce qui aura un impact sur le crédit que nous, on va avoir.
Tu peux rendre l'impôt quand même assez palpitant. Merci,
c'est,
Martin.
C'est fascinant. Honnêtement, c'est super logique, l'impôt. C'est oui. Super plate à faire, mais c'est quand même très logique.
C'est pour ça que tu le retiens bien. Tu es une personne logique. Qu'est-ce que les fonds mutuels distribuent? Et est-ce que les fonds négociés en bourse, eux, distribuent aussi?
Oui, donc une autre très bonne question parce qu'il y a des subtilités administratives à travers tout ça. Donc, un fonds mutuel ou un fonds négocié en bourse, il faut comprendre que c'est une fiducie qui détient un paquet de titres avec des bénéficiaires, les bénéficiaires étant vous, les porteurs de parts. La fiducie elle-même ne paye pas d'impôts. Donc, si elle a des revenus imposables, elle doit, à la fin de l'année, distribuer aux bénéficiaires l'imposition, les revenus imposables. Donc, vous recevez bien souvent, soit de façon trimestrielle, mensuelle, ou des fois à la toute fin de l'année, une distribution du fonds mutuel ou du fonds négocié en bourse. Cette distribution-là, elle peut avoir donc trois natures. Donc, la distribution, c'est l'acte de recevoir l'argent. Mais sa nature fiscale peut varier d'un fonds à l'autre. Ça peut être du revenu d'intérêt, ça peut être effectivement du dividende, ça peut être du dividende étranger. Si on pense à un fonds d'action mondiale, par exemple, on va avoir reçu des dividendes étrangers. Alors, la compagnie étrangère, est-ce qu'elle paye de l'impôt au Canada? Non. Alors, le gouvernement ne donne pas de crédit d'impôt sur les dividendes étrangers. Il va les taxer comme du revenu d'intérêt. Ça fait du sens. La compagnie n'a pas de payer d'impôt au Canada. Ça peut être aussi du retour de capital. Donc, à l'intérieur du portefeuille, peut-être que le gestionnaire a généré du gain en capital. Il y a une portion du gain qui n'est pas imposable. Donc, on se fait distribuer cette portion-là. Donc, quand on regarde les relevés de compte, là, sur le relevé, dans la section transactions, c'est écrit dividende, le fonds mutuel XYZ, j'ai reçu tant d'affaires. C'est pas nécessairement un dividende d'un point de vue de nature fiscale. C'est un peu une limitation administrative, là. Donc, c'est la distribution du fonds. Et à la fin de l'année, sur les relevés fiscaux, cette nature de distribution-là va être établie là, sur vraiment le T3 et le T5. Là, on va voir, OK, c'était quoi finalement? C'était-tu de l'intérêt du dividende du gain en capital? Même chose les FNB. Là. Un FNB puis un fonds mutuel, essentiellement, un FNB, fonds négocié en bourse, c'est essentiellement la même affaire. La différence, c'est comment on l'achète. Un fonds négocié en bourse, on le transige à la bourse. Le fonds mutuel, ben, on l'achète sur le marché hors cote, directement des émetteurs à la fin de la journée.
Puis comme avec les titres qui ont des dividendes, on peut racheter des parts des fonds mutuels.
Exact. Là. Donc, les distributions des fonds peuvent automatiquement, donc souvent le choix par défaut, là, c'est nos systèmes sont programmés pour automatiquement réinvestir dans des unités supplémentaires. Ça va avoir un impact sur le prix d'achat. Donc, tu sais, je mets 10 000 $ dans mon fonds ABC. Puis là, ben, mon fonds ABC il me distribue une pièce. Ben là, ça a pour effet de faire baisser la valeur au marché d'un dollar. Mais si je réinvestis, donc là, ma valeur au marché, elle remonte. Mais je vais avoir un ajustement aussi sur mon coût d'achat pour pas qu'il y ait de double imposition encore. Donc, les systèmes sont quand même assez intelligents. Vous n'avez pas à manuellement là, suivre tout ça. Tous les rapports de gains et pertes vont refléter là, les bons coûts et les bons produits de disposition. Il y a une particularité importante pour les bénéficiaires de la prestation de la sécurité de la vieillesse. Donc, le calcul de remboursement de l'impôt de récupération de la sécurité de la vieillesse, il est calculé sur le revenu net. Donc, quand on reçoit 100 $ de dividendes, on ajoute 138 à notre revenu. Puis c'est sur ce montant-là que le gouvernement va dire, si je gagne plus de 90 997 $ en 2024, je dois rembourser 15 % de ma prestation de la sécurité de la vieillesse. Le crédit d'impôt, il vient un peu plus tard dans le rapport d'impôt. Donc, faut faire un peu attention quand on est sur la bulle, là, sur la ligne. Bon, est-ce qu'on devrait changer de nature? Et là, il faut quand même garder une certaine logique. OK, je vais convertir mes revenus de dividendes en revenus d'intérêt pour préserver ma sécurité de vieillesse. Ouais, mais là, je vais payer plus d'impôts, plus que la sécurité de vieillesse que je récupère. Fait que tu sais, l'argent, c'est fluide. Il faut regarder vraiment de façon holistique et non seulement de dire OK, mais là, je veux préserver ma PSV. Fait qu'en échange, OK, je récupère ma prestation de sécurité de vieillesse. Mais je paye plus d'impôts de l'autre bord, je n'ai pas avancé, là, tu sais, fait qu'il faut garder cette logique-là, mais juste à savoir, quand je reçois des revenus de dividendes, le calcul d'impôt de récupération, il est fait avant le crédit d'impôt, donc ça a un impact.
Puis c'est bon d'en discuter avec son comptable et discuter avec nous si vous voulez avoir des discussions plus poussées sur votre situation et votre PS.
Exact. On n'est pas dans le département des miracles, là, mais des fois, il y a des solutions simples qui peuvent être mises en place pour juste améliorer un peu notre sort. On est là pour ça. Ça fait partie d'une gestion de patrimoine intégrée de regarder la fiscalité.
Absolument. Mais merci beaucoup, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.